Collège de France, les cours sont libres, c'est-à-dire que viennent les écouter les gens qui veulent, n'importe qui.
Les cours du Collège de France par Meryl Meneghetti.
Finalement, quel est celui qui est examiné? Quel est celui qui est sous le pouvoir de l'autre? Moi, je dirais qu'au Collège de France, c'est celui qui enseigne.
Vous voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Auquel des dieux ou des daimones sacrifiés pour agir au mieux et avec profit, peut-on lire sur une lamelle retrouvée dans le sanctuaire oraculaire de Dodone ? Que nous apprennent les documents où apparaissent les daimones, s'interroge l'historienne anthropologue Vinciane Pirène Delforge. Pourquoi convoquer dans son enquête cette notion complexe des daimones dans le monde des divinités grecques ? Professeur au Collège de France, titulaire de la chaire Religion, Histoire et Société dans le monde grec antique, Vinciane Pirène Delforge se lance dans une grande enquête autour des dieux, des daimones et des héros. Elle propose d'appliquer une grille d'analyse polythéiste à la notion de daimon pour affronter la question si importante, nous dit-elle, de la manière dont les Grecs se représentaient l'action des entités suprahumaines dans le monde. Aujourd'hui, l'historienne qui a longtemps fait sa carrière en Belgique au fond de la recherche scientifique de la Fédération Wallonie-Bruxelles, tout en enseignant à l'Université de Liège, où elle a dirigé l'unité de recherche Histoire et Anthropologie des Religions, nous entraîne sur les traces des consultants de l'oracle de Dodone. Ces hommes, ces femmes de tous milieux, sont en quête d'un interlocuteur suprahumain, qu'il soit dieu, héros ou daimon, ou au pluriel, daimones. La philologue et philosophe Barbara Cassin évoque ainsi le sanctuaire. Sur la croupe du mont Tomaros, en Épire, Dodone la venteuse est le plus ancien et le plus célèbre oracle de Zeus. Il pousse un bois de chêne et Zeus y répond aux mortels, prodige incroyable, par ses chênes parlant, comme le dit Eschyle dans Prométhée, ou par l'un d'entre eux, le divin chêne haut feuillu que consulte Ulysse, comme l'écrit Homère dans l'Odyssée. Et c'est bien un voyage au cœur des formules oraculaires et des textes antiques qui s'ouvre avec cette séance. Au travers des requêtes données à l'oracle, quelle est la portée effective de l'ancrage cultuel du daimon ? Comment la notion complexe et polyvalente du daimon dans la Grèce antique peut-elle témoigner de l'action divine dans le monde ? Nous gagnons le Collège de France, mais aussi d'une certaine manière Dodone, pour le cours de Vinciane Pirène Delforge le 21 février 2019. Aujourd'hui, escale à Dodone, quel dieu, héros ou daimon prier ?
J'ai terminé le cours en invoquant le paradoxe que vous ressentiez peut-être dans le choix d'intégrer les daimones à une réflexion sur la représentation des dieux qui tente de mettre en relation les traditions narratives et les cultes. Puisque, comme je vous l'ai appris la semaine dernière, un chercheur éminent comme Marcel de Tienne, qui a fourni des réflexions extrêmement pertinentes sur cette notion de daimon, considérait, je le cite, que le daimon n'était défini ni par une représentation figurée, ni par un mythe, ni par un rituel. Donc, cela peut sembler paradoxal que je convoque cette notion dans ma réflexion, alors que j'insiste continuellement sur la nécessité, pour comprendre le système auquel nous avons affaire, de combiner à la fois les traditions narratives et les cultes. Si le daimon n'apparaît pas en contexte cultuel, pourquoi l'ai-je convoqué ? Et donc c'est à affronter ce paradoxe que je voudrais consacrer la leçon d'aujourd'hui, dans la mesure où le terme apparaît dans un type de document dont la portée cultuelle est incontestable. Et donc c'est ce dossier que je voudrais vous présenter aujourd'hui, qui est un dossier bien circonscrit, et un peu fourni, mais bien circonscrit. Et pour ce faire, je voudrais vous emmener, comme lors de ma leçon inaugurale de décembre 2017, en Épire, dans le nord-ouest de la Grèce, où se trouve le sanctuaire de Dodone, d'où nous est parvenu un corpus documentaire absolument exceptionnel. Alors, je le rappelle, l'oracle de Dodone, donc, qui se situe ici en Épire, dans un site où, curieusement, les nuages arrivent toujours d'une manière ou d'une autre quand on le visite. Et donc l'oracle de Dodone fait partie des oracles les plus célèbres de la période archaïque à la période hellénistique, à l'instar de l'oracle de Delphes, mais pour des raisons légèrement différentes. Toutefois, quand à Delphes, c'est Apollon qui se fait l'écho, qui se fait le porteur de la volonté de son père Zeus, à Dodone, c'est Zeus lui-même auquel s'adressent les consultants de l'oracle. Ou plutôt, on va le voir, il s'adresse à Zeus et à une divinité féminine que les gens du lieu lui ont associée, à savoir Dionée, donc Dionée ou Diona, selon le dialecte auquel on a affaire. Et comme l'écrivait très joliment le regretté Walter Burkert, un des plus grands savants pour la connaissance de la religion grecque, donc Walter Burkert écrivait qu'avec Zeus et Dionée, nous avions en fait affaire à Monsieur et Madame Zeus, dans la mesure où le nom de Dionée est formé sur la racine de celui de Zeus, Dios au génitif, donc Monsieur et Madame Zeus, ce qui est une image assez jolie. Alors, les textes littéraires qui évoquent Dodone privilégient toutefois la figure de Zeus comme maître de l'oracle, mais quand nous disposons, dès que nous disposons de documents issus de la pratique oraculaire elle-même, et non des documents littéraires qui y font écho, ce sont Zeus et Naios, donc Zeus Naios, Zeus Dodonaios, Zeus Naios, hein, c'est une épiclèse topique, et Dionée qui apparaissent dans l'écrasante majorité des demandes mentionnant les destinataires. Donc c'est vraiment le couple auquel s'adressent les consultants de l'oracle, même si les mentions littéraires de cette structure oraculaire favorisent généralement Zeus. Alors, c'est un lieu qui a fait l'objet, enfin, la moisson documentaire du lieu a fait l'objet de publications importantes ces dernières années, dans la mesure où les lamelles oraculaires qui ont été mises au jour dès les premières fouilles du site au XIXe siècle, la quantité de ces lamelles n'a cessé de s'accroître et leur caractère exploitable a été amélioré par des techniques modernes ces dernières décennies. Et donc, j'épingle ici quelques publications importante, fondamentale pour notre connaissance de ce corpus. Vous avez tout d'abord le premier véritable corpus qui a été dédié à ces documents qui a été publié à Genève en 2006, donc sous la plume d'Éric Lhôte, qui reste un des maîtres d'œuvre du déchiffrement de ces documents difficiles. Et donc, dans ce corpus, Éric Lhôte publiait 167 documents. Esther Edino, dans sa thèse, la publication de sa thèse, a ajouté quelques documents à cet ensemble et en a donné une interprétation. Et puis alors, ce qui a véritablement constitué un saut qualitatif, enfin surtout quantitatif, par rapport à ce corpus, c'est la publication par des collègues grecs, dont vous voyez le nom à l'écran, de plus de 4000 documents associés à l'oracle de Dodone. Et donc, quand vous combinez la publication d'Éric Lhôte et celle de Dakaris Vokotopoulou et Christidis, on a vraiment là un corpus absolument exceptionnel. Alors, Parker a donné un article très très important aussi sur le contenu de ces lamelles. Puis, en 2017, ont été publiés les actes d'un colloque donc, sur ce corpus, avec de très intéressantes publications. Et alors, j'épingle tout particulièrement un projet en cours sur le net, qui s'appelle Dodona Online, qui est dirigé par Pierre Bonnechère de l'Université de Montréal. Et vous retrouvez dans l'équipe Éric Lhôte, que j'évoquais il y a un instant, qui, dans cet ensemble qui est en voie de constitution sur le net, est en train de livrer progressivement, avec la collaboration de Yann-Mathieu Carbon, un choix d'inscription oraculaire de Dodone, donc une sorte de sous-ensemble de ce projet général. Et je tiens publiquement à remercier Éric Lhôte de m'avoir permis ici, pour cette occasion, de produire quelques-unes de ces lectures qui ne sont pas encore disponibles en ligne, mais dont j'ai pu disposer. Parce que ce sont vraiment des documents difficiles. Il faut une compétence de linguiste très approfondie. Donc, les consultants peuvent être des cités à titre officiel, c'est une possibilité, mais finalement la proportion est assez faible de ces cités à titre officiel. Ce sont surtout des individus qui apparaissent sur les lamelles, et vous allez le voir par tous les exemples que je vais vous présenter aujourd'hui, les préoccupations dont ces documents témoignent sont touchantes, de familiarité humaine. Il s'agit de la réussite d'une entreprise professionnelle, d'un voyage, d'un mariage, l'espérance d'une descendance, un souci de santé, la préservation de ses biens, du bien-être de sa famille, la pertinence d'un déménagement, voire d'une migration. Donc, un éventail de préoccupations qui nous parle évidemment encore très directement aujourd'hui. Alors, on ne saisit pas vraiment, loin s'en faut, c'est pour ça que je ne vais pas m'y attarder, la manière concrète dont l'oracle fonctionnait, qui écrivait les questions, qui les recevait, quelle était la procédure mise en place par le personnel de l'oracle pour fournir les réponses, que devenaient les lamelles après usage, puisqu'on voit que certaines d'entre elles ont été remployées sur place. Donc, il y a toute une série de questions qui restent ouvertes et dont on peut espérer que la progression de ce magnifique projet nous permettra de les affronter avec davantage d'éléments en main. Donc, je laisse de côté la question du fonctionnement pour m'attacher véritablement aux documents qui nous sont parvenus. Donc, l'ensemble des lamelles à disposition aujourd'hui, en dépit du caractère très lacunaire d'un grand nombre d'entre elles, parce qu'il y a plus de 4000 documents dans le corpus grec dont vous avez la référence ici, mais certains documents sont extrêmement difficiles à déchiffrer ou sont extrêmement lacunaires. Donc, en dépit de ce caractère lacunaire, on peut repérer dans cet ensemble différents formulaires dans le libellé des questions. Et comme l'a bien souligné Éric Laude dans sa publication de 2006, on peut dégager deux types de formulaires qu'il a respectivement qualifiés de formulaires en tini et de formulaires en e, donc formulaire en tini acquis, formulaire en e si, la question si, et puis vous avez le libellé. Et ce constat de 2006 a été encore renforcé davantage par la publication du corpus de 2013. Donc, formule en tini, donc une évocation d'abord, vous allez voir le contenu de cette invocation, un tel, donc le nom du consultant, ou de la consultante, parce qu'il y a beaucoup de femmes dans cet ensemble, un tel, donc, ou une telle, demande à Zeus, Naios et à Diona, ou Dionée, auquel des dieux ou des héros il pourrait sacrifier et adresser des prières pour agir au mieux avec profit. Donc là, vous avez le formulaire en tini, donc auquel des dieux ou des héros, c'est là qu'est le cœur de la question dans ce formulaire, dans cette formule, puis la formule en est, un tel demande à Zeus, Naios et Diona s'il est mieux et plus profitable pour lui de faire telle ou telle chose. Donc voilà les formulaires les plus constants, les plus récurrents que l'on trouve dans ce corpus. Et voilà quelques exemples du type de documents concrets auxquels nous avons affaire. Et vous voyez, bon, certains sont extrêmement corrodés parce que les lamelles étaient pliées et donc certaines ont été retrouvées pliées. Et donc après, il y a un certain nombre de problèmes. Vous voyez que la lecture, évidemment, à l'endroit des plis est extrêmement difficile. Et donc vous avez ici un petit échantillon de ce type de document. Alors, quelques formules en « est », donc en « si », peuvent être des mélanges qui paraissent a priori peu efficaces. Voilà deux exemples. Alors donc ici, c'est la référence au corpus grec et à l'intérieur, la numérotation des lamelles. Donc vous voyez ici, par exemple, on a, et ça semble complet, « si je sacrifie au dieu au héros ». Ça semble être en fait une erreur de formulation. Vous avez ici « si en priant les dieux », et puis on n'a pas le reste. Et donc vous voyez ici les combinaisons de différentes formules. Ou encore cette remarquable variation dans la construction verbale de la lamelle. Donc ici, je vous ai mis la transcription que l'on trouve dans le corpus de 2013. Donc je lis la traduction avec vous. « Dieu, bonne fortune. Agatharkos demande à Zeus, Naos et à Diona à propos des maladies qu'il a dans le corps, si en se tournant vers les dieux, il recouvrera la santé. » Alors on imagine mal que l'oracle ait répondu « non ». Mais on n'imagine pas plus facilement qu'il ait répondu par un simple « oui ». Donc ici, on voit bien qu'on a affaire à une formule qui a été quelque peu décalée, c'est-à-dire modifiée. L'identification des dieux vers lesquels Agatharkos pouvait se tourner était probablement implicite dans la question. En fait, la question, c'était une question en tini. Pour mes problèmes de santé, vers quel dieu ou quel héros dois-je me tourner ? Même s'il ne l'a pas formulé explicitement de cette manière. Donc on le voit d'emblée, des variations formelles existent, indépendamment de la variété des préoccupations elles-mêmes. Et si je me concentre sur la première formule, celle en tini, qui est celle évidemment qui m'intéresse le plus, on constate que l'invocation peut être présente ou non, donc le dieu, bonne fortune, on l'a parfois, mais parfois on ne l'a pas. Le verbe exprimant la demande peut varier aussi. Donc ici vous avez, voilà, épérotais, mais vous avez des variations possibles dans cette formule. La question est parfois directe. Les dieux du lieu se ramènent parfois au seul Zeus, mais c'est rare, je vous l'ai dit tout à l'heure. Ou bien Zeus est parfois appelé simplement Tonteon, le dieu du lieu, ça va de soi. Une fois, Dionée apparaît seul. C'est dans la lamelle du corpus d'Éric Lhôte en 2006, donc la lamelle numéro 91. Et on ne comprend pas bien, au vu de la question, ce qui peut justifier ce choix. Je lis la traduction avec vous. Dieu, bonne fortune, donc voilà la vocation. Lokiskos demande à Diona au sujet de son travail, s'il peut avoir du succès et s'il agit au mieux en voyageant par les mers. On ne sache pas que Dionée ait une quelconque compétence particulière en affaires maritimes. Donc ici, voilà, le genre de puzzle auquel nous sommes confrontés quand on travaille sur les polythéismes. Pourquoi, dans ce cas-là, a-t-il interrogé tout particulièrement Dionée ? Nous ne le savons pas. Alors, toujours dans les variations de la formule antinie, on a aussi différents verbes pour exprimer le rituel qui est à accomplir. Ici, vous voyez, vous avez l'expression « loion kai ameinon prasoi », mais vous avez des cas, je vous ai mis quelques cas différents ici en mettant chaque fois en évidence le verbe qui est utilisé. Je lis les traductions avec vous. « Ménès demande au dieu », donc vous voyez là, pas de Zeus, Naios et de Dionée, c'est simplement « tonteon ».« Ménès demande au dieu auquel des dieux il faudrait rendre un culte », donc c'est comme ça que j'ai traduit « therapeuein », pour agir au mieux. Le dieu est censé savoir de quoi il s'agit. Dieu, bonne fortune, Antiochos demande à Zeus et à Diona, là ils sont tous les deux, au sujet de sa santé, de celle de son père, de celle de sa sœur, lequel des dieux ou des héros il pourrait honorer pour que cela soit profitable et bénéfique. Et donc, vous voyez ici, vous avez le verbe timan, qui est simplement la référence à de rendre hommage. Et enfin, ici, vous avez Ilascomai, Dieu bonne fortune, Onésimos demande à Zeus, Naios et à Dioné, lequel des dieux ou des héros il doit se concilier pour être en bonne santé, réussir. Là, on a des lacunes qui nous empêchent d'avoir une vision claire de la fin de la rédaction de la tablette. Alors, ce qui m'intéresse tout particulièrement dans cette formule antinie, c'est la détermination des catégories d'entités à honorer. C'est évidemment du pain béni pour moi, qui travaille sur la catégorisation du divin, de voir cette articulation qui apparaît dans les lamelles de Dodone. Donc, détermination des catégories d'entités à se concilier, à honorer, auquel offrir un sacrifice, adresser une prière. Car la caractéristique de cette formule de demande, telle que donc l'a reconstruite Éric Lhôte, est qu'elle construit deux niveaux de requête en vue de l'accomplissement des attentes du consultant. Le premier niveau, c'est la consultation de l'oracle. C'est de cela que la lamelle témoigne, l'interrogation de l'oracle dont on espère qu'il identifiera le bon destinataire. Et le second niveau, mais alors qui est implicite dans la requête, et la démarche rituelle elle-même qui sera accomplie à l'égard de l'interlocuteur divin ou héroïque qu'aura désigné l'oracle. Donc vous avez ces deux temps qu'impliquent les textes en question. Alors certaines demandes semblent combiner les deux formules. Vous avez ici cette lamelle où Callicratès demande au dieu s'il lui, alors je mets s'il lui, mais fondamentalement en grec c'est s'il me sera donné d'avoir une descendance de Niké. La femme qu'il a, ce passage de la première à la troisième personne peut apparaître dans les lamelles, ce qui laisse peut-être entendre qu'ici le consultant écrit ça lui-même. Donc, Callicratès demande au dieu s'il lui sera donné d'avoir une descendance de Niké, la femme qu'il a en restant avec elle, et auquel des dieux il doit adresser une prière. Voyez ici, la formule a été retournée. Au lieu que l'on ait auquel des dieux il doit adresser une prière pour avoir une descendance de Niké, il y a une sorte de court-circuit qui s'opère entre les deux dimensions. Alors, une femme peut aussi demander à Zeus Naios de l'éclairer sur lequel des dieux elle doit prier dans cette perspective. Je lis avec vous, Dieu, Clunica, demande à Zeus Naios et à Diona que des enfants lui naissent dans notre homme et auquel des dieux elle devrait rendre un culte pour avoir des enfants. Donc, ici, vous avez là encore une sorte de court-circuit puisque elle demande au dieu de l'oracle que des enfants lui naissent. Alors, dans notre homme, l'a-t-il quitté ? Est-il mort ? Nous n'en savons rien. Et auquel des dieux elle devrait rendre un culte pour avoir des enfants. Mais donc, vous voyez ici une femme qui n'est pas définie ni par un le nom d'un père ou d'un mari qui se présente comme tel à l'oracle. Alors, quantitativement parlant, je reviens donc à la question des destinataires, la formule associant les dieux et les héros est moins bien attestée que la formule qui évoque lequel des dieux, comme dans les deux cas qu'on vient de voir. Dans le cas de Callicratès et de Clunica, vous voyez, c'est simplement auquel des dieux, Tina, Kateon. Lequel des dieux elle doit honorer. Et déjà dans le corpus de l'hôte en 2006, si l'on considère les textes assurés sans restitution, on compte 5 fois l'expression « auquel des dieux ou des héros », c'est une alternative, « auquel des dieux ou des héros », contre 10 fois l'expression simple faisant référence au seul dieu. Donc il y a un rapport de 1 à 2 dans cette affaire. Et le corpus de 2013 n'est venu que confirmer cette tendance. Donc la question la plus générale, c'est « auquel des dieux ?» Une sorte de vision générique. Mais dans la moitié des cas, on a quand même auquel des dieux ou des héros. Quant à la chronologie des documents, ce qu'on pourrait s'interroger, est-ce qu'il y a un effet de l'histoire sur ce choix de demander à quel dieu ou de présenter une alternative? Mais en fait, la chronologie des documents ne permet pas de dessiner une quelconque évolution dans le choix de l'une ou l'autre expression, puisque les deux expressions sont attestées dès le début de notre documentation, donc dès le début des lamelles, à savoir de la fin du VIe siècle, début Ve, avant notre ère, jusqu'au IIe siècle, quand on finit d'avoir des lamelles à disposition. Ce qu'il faut souligner et qui va me retenir à présent, ce sont les variations qui viennent s'ajouter à cette alternative dieu ou héros. Et la première variation que je vous soumets, évidemment, et qui justifie que je vous parle de tout ça aujourd'hui, c'est la question des daimones. En effet, cette lamelle ajoute un troisième élément à la simple alternative dieu ou héros. Je lis avec vous, dieu bonne fortune, Evandros et sa femme, vous voyez là ils sont deux et la femme est anonyme, demandent à Zeus Naios et à Diona, auquel des dieux ou des héros ou des daimones, que je ne traduis toujours pas, adresser des prières et sacrifier pour agir au mieux avec profit, eux-mêmes aussi bien que leur famille, maintenant et pour toujours. Alors, ce texte est connu depuis l'édition des fouilles du site de Dodone par Constantin Karapanos en 1878, dans un ouvrage intitulé en français « Dodone et ses ruines ». Et donc, ce texte est daté par Éric Claude des 3e, 2e siècles. Le document est donc bien ancré dans la période hellénistique. Or, avant cette période, un même type de catégorisation à trois éléments apparaît chez Platon, dans des contextes qui ont des implications culturelles normatives. Et alors cette norme, évidemment, elle est très idéale, puisque ce sont les lois de Platon qui nous présentent cette structure à trois éléments. Et j'avais brièvement évoqué la semaine dernière déjà un passage des lois, souvenez-vous, pour vous montrer à quel point la dichotomie olympien-actonien était finalement très réductrice au vu de la variété des catégories que nous avons à disposition, par exemple dans les lois de Platon. C'est juste pour vous rappeler qu'on a déjà vu passer ces éléments. Alors, on retrouve évidemment les trois éléments, mais ce qui m'intéresse surtout, aussi bien dans les lois que dans la République, c'est la mise en schéma presque, enfin en tout cas c'est celle que je vous propose, des théoi, des daimones et des héroes, voire les héros sont parfois simplement qualifiés d'enfants de dieu, donc sont les demi-dieux, les héros en tant que fils d'un dieu, d'une divinité, fils d'un ou d'une mortelle. Et en fait, quand Platon organise les cultes et les honneurs à rendre au sein de sa cité idéale, il évoque ces trois catégories. Et ici, évidemment, à ce stade, je ne parle absolument pas de la notion de daimon philosophiquement chargée, telle qu'on la trouve aussi chez Platon. Ici, je m'en tiens à l'ancrage cultuel qu'il met en place dans la manière dont il pense les honneurs divins au sein de sa cité idéale. Et donc, quand il pense ces honneurs, il juxtapose les dieux, les daimones, les héros. Et donc, vous avez ici, vous voyez, différents exemples qui soutiennent ce point de vue. Alors, avant Platon, un tel cursus honorum, j'ai repris l'expression de l'ouvrage de Timothy, La démonologie platonicienne, qui était publié en 2012, et je trouvais que l'expression était très heureuse, cursus honorum, entre les dieux, les daimonos et les héros. Donc avant Platon, ce cursus se serait déjà trouvé chez les anciens pythagoriciens, si l'on en croit des témoignages, mais et c'est notamment de ça que De Tienne avait traité dans son ouvrage dont je vous ai longuement parlé la semaine dernière. Donc ce triptyque aurait déjà été présent chez les anciens pythagoriciens avant Platon, mais le problème c'est que la plupart des documents sur lesquels se fonde cette analyse relèvent du néo-pythagorisme, donc bien plus tard, et il est difficile de les projeter sur les époques anciennes. C'est pour ça que je ne convoquerai pas ce point à ce stade, et l'hypothèse de l'antériorité de la structure est de toute façon assez fragile. Donc, pour vous montrer qu'avec Evandros et sa femme, on n'a pas quelque chose qui surgit de nulle part. Dans cette cité idéale, on a cette structure en trois éléments. Et c'est de culte qu'il s'agit. Alors, je reviens à Evandros et sa femme. Alors, si cette lamelle était restée un apax, donc un élément unique, dans la série des consultations, on aurait pu faire l'hypothèse qu'Evandros n'était pas nécessairement le paysan un peu lourdeau que certains voulaient voir en lui. Mais bien un consultant éduqué, conscient de cette hiérarchie des êtres divins, dans des contextes de réflexion philosophique. Pourquoi Evandros ne serait-il pas formé, éduqué à cette hiérarchie? Alors l'autre volet de l'alternative était de considérer ce qui fut fait, que la structuration en question n'était pas forcément le produit de la seule spéculation intellectuelle. Donc, alternative, soit ceci est inspiré par la culture d'Evandros, la culture philosophique présumée d'Evandros, ou on considère que non, et que cette lamelle identifie une structuration qui est indépendante de cette réflexion intellectuelle et philosophique. Alors, le caractère unique de cette formulation dans le corpus des questions posées à Dodone ne permettait pas d'aller plus loin. Tant qu'on n'avait que cette lamelle à trois éléments, c'était difficile de trancher l'alternative. Alors, la poursuite de cette investigation dans le cadre de l'oracle a été ouverte par la manne des lamelles, publiée en 2013 par les collègues grecs. Et je voudrais vraiment saluer cette publication, qui ouvre des perspectives tout à fait remarquables. En effet, donc, il s'est avéré que deux autres lamelles, dans ce vaste corpus de plus de 4000 éléments, faisaient apparaître les daimonos dans une question formulée en tini, pour reprendre l'expression d'Éric Claude. Alors, voilà une des nouvelles lamelles qui présente cette structure. Je lis avec vous. Dieu, donc voilà la vocation, Dieu, damainetos à propos de proxénos. Donc, on n'a qu'une partie de la formule. Vous voyez, on n'a pas le verbe de la question, on n'a pas le destinataire de la question. Dieu, damainetos, à propos de proxénos, comment il réchappera de Méliteia et auquel des dieux ou des daimonos adresser des prières pour qu'il en réchappe rapidement et qu'il apporte un présent aux dieux. Donc, vous voyez, c'est quelque chose d'assez spécifique. Là, on sort un peu de la formule. Elle est adaptée. Alors, donc, il s'agit, vous l'aurez remarqué, d'une consultation par procuration. Un certain proxénos, qu'on ne connaît absolument pas, est retenu en Thessalie pour une raison indéterminée, rien n'en est dit, mais suffisamment contraignante et urgente pour qu'il requiert une aide suprahumaine, afin d'en réchapper rapidement. Et cette fois, vous remarquerez que l'alternative s'opère entre l'un des dieux et l'un des daimonos, destinataires des prières, sans référence au héros. C'est également le cas sur cette lamelle, elle aussi ajoutée au corpus par la publication de 2013. Et là, on a donc une question en tini, mais qui est une question directe. Et auquel des dieux ou des daimonos sacrifiés pour agir au mieux et avec profit. Donc nous avons toujours affaire à la formule en tini et à l'alternative d'une prière ou d'un sacrifice adressé à un dieu ou à un daimon. Une autre lamelle, toujours donc dans ce nouveau corpus de 2013, pourrait avoir mentionné une alternative entre daimonos et héros, mais vous voyez qu'elle est beaucoup plus lacunaire. Alors la restitution est, me semble assez probable, et j'étais très heureuse qu'Éric Claude me la confirme. Et donc, je lis la traduction avec vous, qui est celle d'Éric Claude, mais que j'ai modifiée à la dernière ligne. « Dieu, bonne fortune, Dikaios demande au Dieu, à propos de son salut et de sa santé, si la maladie dont il souffre, alors est grave, c'est dans la restitution, et quelle est cette affection, hein, mais là aussi, quelle est, bon, on peut supposer que c'est ça qu'il demande, puisqu'il interroge à propos de sa santé, et lequel des daimonos ou des héros il doit se concilier et se donner comme protecteur, ça c'est une formule tout à fait inusitée dans le corpus, alors on peut supposer que c'est pour recouvrer la santé. Bon. Donc vous voyez trois lamelles qui viennent s'ajouter à celle des Vandross et nous permettent d'être un peu plus sûrs de nous dans l'interprétation de cette formule. Et donc ce petit corpus s'appelle deux remarques. La première touche à l'hypothèse que je vous ai présentée d'une influence philosophique de la catégorisation à trois composantes, Dieu, Daimonos, Héros, dans la lamelle des Vandross. Les deux, voire les trois nouvelles lamelles, semblent l'exclure, puisqu'on n'a pas de catégorisation à trois éléments, mais bien à deux éléments avec le Daimon. Deux fois en alternance avec les dieux, une fois ici avec les héros. La seconde remarque concerne le statut du terme daimon dans ces différents documents que je viens de vous mettre sous les yeux. Donc Evandros et les trois nouvelles lamelles. C'est bien comme destinataire potentiel d'un acte rituel que l'un des daimonos est mentionné au même titre que l'un des dieux ou des héros. Et donc vous voyez que j'affronte ainsi grâce à ce corpus de Dodone. Je peux répondre à cette impression de paradoxe, cette impression paradoxale que j'évoquais en terminant le cours la semaine dernière. Ici, nous avons des cas d'une pratique. Alors, elle est en devenir, puisqu'on interroge l'oracle pour savoir à qui l'on doit sacrifier, à qui l'on doit adresser une prière, etc. Mais néanmoins, l'horizon d'attente, il est bien rituel. Alors, nous avons donc un corpus au vu de toutes les lamelles qui nous ont été conservées, même si beaucoup ne sont pas lisibles dans leur entièreté. On peut supposer, je vous dis juste ça pour être complète dans mon parcours, dans la documentation, on peut supposer que, vu le nombre de cas où la catégorie d'être associé au dieu est perdue dans une lacune, on peut supposer que d'autres daimons se cachent peut-être encore dans notre documentation sans que nous ne soyons plus en mesure de les identifier. Je vous montre un exemple. Vous voyez ici, sur cette lamelle, donc la 2282A du corpus grec, la restitution ici a été faite, donc vous voyez qu'après Théo, il n'y a plus rien sur la lamelle, enfin la lamelle est abîmée, et donc vous avez ici, les éditeurs ont ajouté « Héroon ». Vous voyez que dans la traduction, moi je n'ai rien mis, parce que fondamentalement, les lamelles que nous avons désormais à disposition ne permettent pas d'exclure que nous aurions là des daimonos. Et il y a quand même pas mal de lamelles où la lacune est au mauvais endroit, comme ici. Donc, on ne peut pas exclure qu'on ait eu davantage encore de présence des daimonos dans ce corpus. Quoi qu'il en soit de ce dernier point, les lamelles de Dodone ouvrent des perspectives que d'autres documents ne permettaient que d'entrevoir jusqu'ici. Par exemple, un décret de Pharos, un îlot dans l'actuelle Croatie, reprenez une partie de questions posées à l'oracle de Delphes dans la deuxième moitié du deuxième siècle, et vous voyez, on avait l'expression en tini. Tini theon et ea tuon. Auquel des dieux, à quelle déesse sacrifier. Donc, les démarches du type de celles qui ont été effectuées pendant des siècles auprès de Zeus et de Dionée en leur sanctuaire oraculaire se situent en amont des milliers de dédicaces qui ont été mises au jour dans le monde grec et qui fournissent les étapes ultérieures. Celles où on accomplit un sacrifice, celles où on présente une prière, une demande, une requête. Au sens large, évidemment, entendez-moi bien, je ne suis pas en train de vous dire que toutes les dédicaces que nous avons retrouvées dans les fouilles archéologiques ont été précédées d'une demande oraculaire. Hein. Ce n'est pas du tout ça que je veux dire. Simplement, les consultations de Dodone avec ce genre de questions ont pu aboutir, à un moment ou à un autre, à une dédicace d'action de grâce de la part des consultants. Et nous savons désormais, je viens de vous le montrer, qu'une entité parmi le groupe générique des Daimonos est susceptible d'être convoquée au moment d'explorer le champ des possibles à côté des dieux et des héros. Parce que c'est ça, évidemment, qui est absolument fantastique dans ce corpus. aride, mais tellement précieux, sait que nous avons toute la potentialité du polythéisme qui s'y déploie, et toute l'angoisse aussi des consultants, dans cette masse d'interlocuteurs potentiels, qui puisse choisir pour être efficace. Et dans cette masse d'interlocuteurs potentiels, on voit arriver des daimoneuses. Alors, revenons donc aux lamelles portant le formulaire Antini. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est la formule « lequel des dieux » qui se taille la plus large part. Et on vient de voir qu'à cette catégorie, on pouvait s'ajouter les héros et les daimoneuses. Mais je voudrais, comme je suis à Dodone et que je n'y serai qu'aujourd'hui, et que ce corpus est récemment venu à la connaissance des chercheurs, je voudrais m'attarder encore un peu sur des éléments d'information que nous trouvons dans ce remarquable ensemble. En effet, le corpus de 2013 a révélé que les consultants avaient fait la preuve d'une créativité intéressante dans l'évocation des catégories de destinataires de leur dévotion, avec diverses formules qui dépassent Dieu ou démon, ou Dieu tout seul, même Dieu, daimonos, héros. Et je voudrais jeter un œil avec vous sur cette créativité qui est au cœur même du fonctionnement du polythéisme grec que j'essaie d'élucider en votre compagnie.
Le Collège de France et France Culture vous présente l'historienne Vinciane Pirandelforge. Aujourd'hui, escale à Dodone, quel dieu, héros ou daimon prier ?
Alors, un premier cas de modification de la formule standard, mais qui n'a de standard que le nom. Le premier cas de modification que je veux vous soumettre est attesté donc par une lamelle datée de la deuxième moitié du 5e siècle par Éric Claude. Et quand j'indique le nom d'Éric Claude ou d'autres pour la datation, c'est que ça ne correspond pas à ce qui est donné dans le corpus de 2013. Et donc, vous voyez ici une lamelle dont vous avez la reproduction, enfin, le dessin. Dieu Fortune, donc là on a l'invocation, Euclis, à propos de la santé et du salut pour lui-même, sa famille et ses biens, est venu demander à l'oracle, vous voyez, variation dans la formule Antini, auquel des dieux et des héros, là vous avez un caille que j'ai mis en évidence dans la traduction. Il faut sacrifier et adresser des prières pour agir avec profit. Alors il est difficile évidemment d'affirmer que cette légère modification de la formule Antini a été sciemment conçu par le consultant. Peut-être est-ce simplement un glissement dans la rédaction de la lamelle. Mais si c'est sciemment conçu, le consultant envisage d'emblée d'honorer un être pleinement divin et un être héroïque afin de maximiser ses chances de succès. Si vous voulez, ces lamelles, ce sont comme de légers coups de projecteur, mais parfois extrêmement fugaces, sur les questions que se posaient les Grecs anciens quand ils devaient honorer des entités du monde suprahumain. Alors, une autre variation semble davantage être le fait d'un choix sciemment conçu. En effet, une petite vingtaine de lamelles offrent l'alternative Dieu-Déesse. En voici quelques exemples parmi les moins restitués. Je lis les traductions avec vous. À propos des biens, lequel des dieux ou laquelle des déesses priez pour que j'en acquière moi-même. Il y a un intéressement. Un intérêt certain dans la question. Donc voilà un exemple où, pour cette question d'acquisition de biens, le consultant va offrir cette alternative Dieu ou déesse. Deuxième exemple, du 3e siècle, donc un peu plus récent, un tel, on ne sait pas, on n'a pas conservé le nom, interroge Zeus, Naïos et Dionée à propos de sa descendance à venir, afin qu'elle soit assurée. Hein, vous voyez l'angoisse de ces gens dans un monde où l'accompagnement médical des parturientes était quand même extrêmement limité. Donc, afin qu'elle soit assurée, auquel des dieux ou à laquelle des déesses adresser ses prières, pour qu'elle soit assurée. Ce ne sont pas des modèles de littérature. Hein. Donc, il faut assumer ça aussi dans la traduction. Donc, vous voyez ici, pour une descendance, autant pour les biens, bon, voilà, mais on voit que cette alternative, elle marche aussi bien pour l'acquisition de biens que pour avoir une descendance. Enfin, le dernier exemple que je veux vous montrer, qui est intéressant parce que je pense qu'il s'agit d'un oubli préalable. Vous allez voir. Dieu, Philoxénos, demande à Zeus, Naios et à Dionée, auquel des dieux ou à laquelle des déesses il doit adresser ses prières pour agir au mieux. Et puis on dirait qu'il a eu un moment de lucidité. Ou auquel des héros. On ne sait jamais. On n'est jamais trop prudent. Mais vous voyez ici, on est presque en prise directe avec cette incertitude. Et c'est ça qui fait aussi toute la beauté de ces documents. Donc ici, voilà, si la lamelle n'était pas aussi lacunaire, on pourrait peut-être penser que seules les déesses étaient concernées par cette question dont on ne sait rien par ailleurs. Alors, la formule Antini, comme l'indique le nom qui lui a été donné, sollicite donc de Zeus et de Dionée le nom d'un interlocuteur parmi la pluralité disponible, indiquée la plupart du temps au génitif pluriel. Ici, vous avez une forme dorienne. On a aussi d'autres formules où c'est une formule mais qui est extrêmement apparentée à la formule Antini, mais la formule Antinas. Vous avez lesquels des dieux on peut prier. Et donc là, ce n'est plus la détermination d'un interlocuteur potentiel, mais de plusieurs. Comme on avait tout à l'heure, lequel des dieux et lequel des héros, ben là on avait un dieu et un héros. Ici, le consultant ouvre les possibilités. Donc, on ne sait pas qui d'embrasser, à Zeus, Naios et à Diona, à propos de sa santé, de ses biens et de son avenir. Vous avez une préoccupation globale. Tant qu'à faire d'aller à Dodone, autant présenter l'ensemble de ses souhaits. Quel dieu il doit se concilier pour agir au mieux et avec profit? Un exemple reprend également l'interrogation Tini sans complément. Vous voyez ici, c'est intéressant comme variation. Dieu fortune, Philistos, demande à qui il doit sacrifier pour agir au mieux avec profit. Et le dieu doit se débrouiller pour lui répondre de façon pertinente. Alors, dans quelques exemples, le consultant soumet un choix déjà effectué, qu'il veut valider. C'est peut-être le cas de cette question posée par plusieurs consultants. Vous voyez ici, on a un participe pluriel. Donc plusieurs consultants assument la question, mais malheureusement, elle est extrêmement lacunaire. Et on peut faire l'hypothèse qu'ici, donc en sacrifiant au dieu un tel, on peut supposer que dans la lacune se trouvait le nom du dieu que l'oracle était censé valider. Alors, dans les trois exemples suivants, dont les deuxième et troisième portent assurément une question posée par une femme, le dieu destinataire du rituel prévu est identifié. Mais les cas sont rares. La plupart du temps, c'est on laisse les possibilités totalement ouvertes. Ici, ce n'est pas le cas. Je lis avec vous. En priant et en sacrifiant à Apollon, agirai-je avec profit. Ou encore, et ici vous avez des femmes, puisque vous avez des participes féminins, dont la terminaison est féminine, en me rendant réa favorable, cela ira-t-il pour moi? Aurais-je du succès en offrant une dédicace à Artémis? Vous voyez, toutes ces variations sont extrêmement intéressantes. Alors, cet autre cas, toujours dans le registre des variations, semble indiquer, je lis avec vous, donc Dieu, Fortune, Aiskos, consulte Zeus, Dodonaios et Diona pour savoir à quel héros sacrifier afin de bien agir pour sa santé. Là, manifestement, le consultant semble flécher d'emblée la catégorie de héros. Et l'enquête oraculaire porte sur son identité précise. Donc manifestement, il a des choses en tête. Et il attend du Dieu qu'il les valide. Donc vous voyez, un corpus absolument fascinant pour beaucoup de chercheurs qui travaillent sur l'histoire ancienne, mais pour ceux qui travaillent sur la religion grecque, sur l'histoire ancienne et sur la langue aussi, vous avez une manne d'informations pour les linguistes dans ces documents, mais pour ceux qui travaillent sur la religion grecque comme moi, vous avez là une occasion presque unique d'être en contact avec un processus de délibération. Dans la plupart des cas, alors, on a le résultat de ce processus. Je l'évoquais tout à l'heure à propos des milliers de dédicaces qui ont été mises au jour. Alors, on a aussi des processus qui sont explicités dans les traditions narratives, dans les textes dits littéraires. Mais ici, nous avons quelque chose d'exceptionnel en ce sens qu'il s'agit d'objets concrets de la pratique rituelle qui reflètent cette pratique. Et c'est en cela que c'est évidemment exceptionnel et que l'on a, on voit se faire jour, là, toute une série de questionnements, d'hésitations de la part des Grecs. Alors, si j'ai pris le temps de passer en revue ces différents cas où la créativité des consultants s'est déployée, même très modestement, c'est pour nous permettre, j'en arrive maintenant véritablement à l'intérêt de tout cela pour mon sujet, c'est pour nous permettre de prendre la mesure, autant que faire se peut, des quelques occurrences du terme de daimon dans cet ensemble. Et donc, pour récapituler les acquis de ce parcours et de cette analyse, je voudrais vous soumettre plusieurs remarques. Alors, dans le libellé des questions à l'oracle, qui concerne le choix donc, d'un interlocuteur suprahumain, la formule standard mais non contraignante, et quand je dis standard, c'est parce qu'elle est quantitativement la mieux attestée, est celle qui présente l'expression tini theon, auquel des dieux. Tini theon, je vais récapituler les différentes formules. Alors, les variations de cette formule standard que nous avons repérées ne sont pas toutes à mettre sur le même pied. Donc, l'alternative que vous voyez ici sur la dia, tini theon he heroon, est une variation dont le nombre élevé d'occurrences atteste qu'elle flirte en quelque sorte avec le statut de formule reçue. Hein, tini theon est assurément ce qui est le mieux attesté, mais l'alternative est elle aussi bien attestée. Et elle relève donc, cette alternative, d'une catégorisation bien intégrée par les consultants aux périodes classiques et hellénistiques. C'est ça qui m'intéresse. L'importance de cette alternative montre que cette catégorie des héros est bien intégrée aux côtés de celle des dieux dans ce contexte. Alors, l'alternative tinitéon et théan, auquel des dieux ou à laquelle des déesses, alors elle est envisageable qu'en dialecte dorien, puisque seul ce dialecte permet de distinguer le masculin et le féminin au génitif pluriel. Et cette expression double est une déclinaison marginale du tinitéon, à laquelle, on l'a vu, avec l'oubli de Philoxénos, vient s'ajouter, dans ce cas-ci, les héros, donc une sorte d'oubli rattrapé en dernière minute. Mais aucun thème saillant dans les requêtes ne permet de comprendre pourquoi tel consultant a choisi d'associer les déesses aux dieux dans l'hypothèse soumise à Zeus Naios et à Dioné. Donc ça, je dirais qu'on n'a pas d'éléments. Il n'y a pas de récurrence, de constante d'éléments qui serait perceptible pour comprendre pourquoi dans certains cas on a les dieux tout seuls, pourquoi dans certains cas on a les dieux et les héros, pourquoi on a les dieux et les déesses. La variation peut attester du tinas theon, quel dieu au pluriel, ou l'expression qui est une fois attestée, tois theos epitrepon, on l'a vu en se tournant vers quel dieu, ouvre l'hypothèse donc d'honorer plus d'un dieu pour affronter le ou les problèmes incriminés, mais là encore, aucun trait saillant de ces informations, de ces documents, ne permet de dépasser le constat que ces consultants-là ont fait preuve peut-être d'une plus grande prudence en contexte polythéiste, en incitant l'oracle à ne pas se limiter à un seul nom. Alors, si la catégorie des dieux semble être en mesure d'englober toutes sortes d'interlocuteurs suprahumains, quelques cas montrent, je vous les ai mis sous les yeux, qu'un héros était peut-être déjà en vue dans la manière dont le consultant a libellé sa question, puisqu'il s'est limité à cette catégorie-là. Le tiniteo se rapporte évidemment à cette formule-là. Donc, sur cet arrière-plan, que nous apprennent les documents où apparaissent les daimones. Alors, le cas des Vandros reste assurément exceptionnel, en ce qu'il est finalement le seul à structurer le champ des possibles en trois catégories distinctes, les dieux, les héros, les daimones. Le cas de Damaïnétos, portant donc la requête d'un certain Proxénos, et celui d'un consultant anonyme, hein, c'était l'autre lamelle que je vous ai montré, s'inscrivent, donc ces deux cas, s'inscrivent dans une structuration à deux termes, comme celle qui rassemble les dieux et les héros, ou les dieux et les déesses. On fera l'hypothèse que dans ces deux textes, la catégorie de daimon est venue se substituer à celle de héros. Hein, ça ressemble à ça. Et il faudra comprendre pourquoi. Pour le moment, je constate ce fait. Voilà une possibilité qui s'offre à nous dans l'analyse de ces documents. Donc, quoi qu'il en soit de cette dernière question, que je laisse ouverte pour l'instant, parce que c'est l'enquête globale qui nous permettra de la reposer le moment venu, ces textes attestent que la notion de daimon n'est pas indépendante de toute épaisseur cultuelle, du moins dans l'intention de celui qui souhaitait clarifier auprès de l'oracle de Dodone les termes de son commerce avec le monde suprahumain, puisque nous avons affaire à des intentions, hein, dans le cas de ces documents. Cela signifie que, dans l'étape exploratoire et expérimentale qui consiste à identifier pour les Grecs un interlocuteur suprahumain, la notion de daimon peut parfaitement être mobilisée, elle peut être convoquée à côté de celle de Théos ou de Héros par un acteur rituel aux périodes classiques et hellénistiques. Dès lors, et j'en arrive à ma conclusion d'aujourd'hui, l'absence du daimon comme destinataire cultuel que Marcel de Tienne avait vigoureusement souligné en en faisant un argument fort pour faire du daimon ce qu'il appelait un signifiant flottant, cette absence du daimon doit être à tout le moins nuancée par les données que nous avons ici sous les yeux, puisque la notion est susceptible d'être activée au moment de la conception d'une question oraculaire qui évoque une démarche cultuelle à poser. Évidemment, il nous faudra comprendre, dans les semaines qui viennent, pourquoi les phases d'actualisation, de concrétisation des démarches en question ne mobilisent pas la notion comme telle dans la documentation. Parce que là, De Tienne a raison. C'est-à-dire que quand vous regardez ces milliers de dédicaces que j'évoquais tout à l'heure, hormis dans certaines dédicaces métriques qui renvoient à de la poésie, on n'a pas la notion de daimon comme telle. Il faudra donc comprendre pourquoi cette notion comme telle n'apparaît pas dans nos documents, alors que dans les intentions de ceux qui se préparent à honorer une entité suprahumaine, cette notion est susceptible d'arriver. Pas très souvent, je vous l'accorde, au vu de l'ampleur du corpus que j'ai évoqué et les quelques éléments que je viens de vous soumettre, mais elles sont là. Ces occurrences sont là. Et donc, il faudra comprendre pourquoi ces phases d'actualisation ne mobilisent pas la notion comme telle dans la documentation qui parle des actes de culte effectivement posés, que ce soit à l'échelle des collectivités ou des particuliers. Et dès la semaine prochaine, nous allons reprendre le fil de l'investigation en partant des textes littéraires et nous commencerons, comme de juste, par Homère. Je vous donne donc rendez-vous dans une semaine.
C'était les cours du Collège de France où vous venez d'écouter Vinciane Pirandelforge. Aujourd'hui, escale à Dodone, quel dieu héros ou daimon prier. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, les vidéos et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours de Vinciane Pirandelforge. Sa leçon inaugurale, « Le polythéisme grec comme objet d'histoire » a été publiée chez Fayard en 2018. Je vous recommande également le bel ouvrage collectif sous la direction d'Hélène Monsacré, « Tout Homère », traduit du grec ancien par Pierre Judet de Lacombe, coédité par Albin Michel et Les Belles Lettres. L'anthropologue historienne vient de publier « Le polythéisme grec à l'épreuve d'Hérodote », toujours aux Belles Lettres. Réalisation, Lorraine Planchet. Présentation et coordination, Myriam Minelletti. Demain, Vinciane Pirandelforge s'interrogera sur le Daimon dans l'épopée homérique et sur l'action divine. Et dans quelques instants, nous retrouvons les petits matins. Belle journée à l'écoute de France Culture.